Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Alors partons d'un constat. Hantise et apparition fantomatique sont des événements signalés en tout temps et en tout lieu, et ça jusqu'à aujourd'hui. Alors on pourrait effectivement rappeler qu'en Égypte, sous l'Antiquité, l'âme Ba, dont vous avez ici la référence, est par excellence un principe mobile. Cependant, d'autres instances de la personnalité humaine, parce que l'âme Ba fait partie c'est une des instances de la personnalité humaine, mais il y en a d'autres, et donc d'autres pouvaient sortir de la tombe pour hanter les vivants. Et c'est l'intérêt de la vignette que vous avez ici sous les yeux, puisqu'on y voit l'âme Ba et l'ombre du défunt. On distingue bien effectivement l'âme Ba qui a la forme de l'oiseau androcéphale et l'ombre du défunt, qui est une autre instance de la personnalité humaine pour les Égyptiens de l'Antiquité, qui peut sortir au jour. Tombe est représentée à droite, bien sûr. La porte de la tombe est rendue ici, visualisée là. Donc l'ombre du défunt sort par la porte de sa tombe, tandis que l'âme Ba semble revenir justement dans ce caveau. Cette capacité à se déplacer était tout à fait indispensable à la survie posthume. Donc on a toujours effectivement depuis très très longtemps cette idée finalement qu'une instance de la personnalité humaine se déplace, et c'est fondamental, c'est ce qui permet de s'imaginer qu'il y a une survie dans l'au-delà, et donc elle peut prendre des formes tout à fait différentes. Alors toutefois, du point de vue des vivants, ça devait être régulé, ce va-et-vient, cette sortie au jour, hors du caveau, disons, de l'ombre du défunt. Ça devait être régulé, sinon le monde des vivants, et on le comprendra facilement, aurait pu être envahi, ou pourrait carrément être envahi, par les zombies. Les revenants, ce sont les zombies. Et c'est, entre autres, le rôle des rites. Ça, c'est un point fondamental. Les rites permettent de contrôler tout ça. C'est aussi le rôle de la tombe. La tombe est le point d'attache à partir duquel le mort peut et doit circuler. Donc les rites funéraires et la tombe permettent de contrôler ce va-et-vient. Bon, alors ça c'était une petite allusion à l'Égypte ancienne, même très ancienne. On peut insister encore un peu davantage. Voici deux documents qui sont tirés d'un papyrus très très célèbre, c'est le papyrus d'Ani, A-N-I, c'est marqué à gauche de la projection je crois, qui date de la 18e dynastie. C'est un papyrus qui a été découvert dans une tombe à Thèbes en 1887, acheté par des marchands égyptiens par le British Museum, donc c'est en 1888 qu'il rentre dans la collection du British Museum à Londres. Donc là, vous n'avez que le dessin qui restitue les peintures du papyrus en question. Enfin, c'est tout à fait flagrant de découvrir à gauche l'âme Ba, l'oiseau androcéphale, qui survole la momie pour la vivifier, tandis qu'à droite, le Ba sort et rentre dans la tombe, tandis que l'ombre du défunt se tient sur le seuil. Ça tombe bien, je crois qu'on avait un peu évoqué la fois précédente, je crois, donc les rituels autour des portes, et on avait distingué la porte elle-même du seuil. Il y a une différence à faire entre le seuil et la porte. Bon, alors, ça c'est l'exemple égyptien. Ça n'est pas cependant notre sujet. Il fallait simplement rappeler que bien avant les Romains, donc il y a déjà cette idée de l'ombre du défunt, du revenant finalement, du zombie qui peut revenir hanter les vivants. Et c'est pareil en Mésopotamie. Avant d'aborder donc l'exemple des Romains, en Mésopotamie, après la mort, le défunt devient une sorte d'esprit, ou même je pense qu'on peut dire, de fantôme, un fantôme qui vit dans un monde souterrain et qui vit sans joie. On a un peu l'image de l'Hadès, si vous voulez, des Grecs de l'Antiquité. Bon, l'esprit fantôme, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, l'esprit fantôme, ça se dit Gidim en sumérien. L'esprit fantôme prend toutefois un aspect malveillant, surtout après une mort violente. Donc là aussi, c'est la conséquence de quelque chose. Soit les rites n'ont pas été faits, soit la tombe est inexistante, soit la mort a été violente, et c'est ce qui va rendre tout d'un coup cet esprit fantôme malveillant. Et malveillant, il tourmente les vivants, et c'est ainsi que les morts sont sépultures, donc ils sont tombeaux, les morts sont sépultures, qui ont péri dans un incendie. On a comme ça des textes sumériens ou des textes acadiens qui donnent cet exemple. Bon, alors ces morts-là ont une existence post-mortem plus accablante encore que ces défunts qui rejoignent ce monde souterrain, cet Hadès, sans joie. Et il arrive au Guidim de prendre possession d'une personne en pénétrant par ses oreilles. Là aussi, on a les références dans les textes sumériens, les textes acadiens ou les textes mésopotamiens. Cette idée de la possession est intéressante, bien sûr, parce que ça se surajoute à l'image du fantôme qui hante les vivants. Ça va plus loin. Dans ce cas, il prend possession d'une personne, et seuls de longs rituels magiques qui sont pratiqués par un exorciste professionnel, il y a bien effectivement, comme il en existe encore aujourd'hui dans le cadre du catholicisme, il y avait bien en Mésopotamie des exorcistes professionnels. Donc seuls ces rites pratiqués par l'exorciste mettront fin à la possession de l'individu. Par ailleurs, la nécromancie, puisque l'on parle de défunts, la nécromancie qui est connue en Mésopotamie est réputée dangereuse pour qui la pratique. Sans doute parce que l'on considère l'esprit fantôme, le guidim, le défunt, si vous voulez, comme dangereux, tout simplement, donc qu'il y a cette idée de possession. Donc forcément, celui qui s'amuse à faire des prédictions à partir des morts, si vous voulez, nécromancie, bon, c'est quelque chose de très dangereux. Seuls les nouveau-nés et ceux qui sont morts avant leur temps jouissent d'une existence agréable dans l'au-delà. Et il est dit qu'ils jouent, qu'ils festoient sur une table d'or et d'argent. Alors eux sont effectivement complètement hors jeu, si l'on veut, donc ce ne sont pas du tout des esprits fantômes qui pourraient revenir hanter les vivants. Cependant, il faudra attendre le premier millénaire avant notre ère, toujours dans ce domaine mésopotamien, pour que le monde souterrain, séparé du monde des vivants, par l'Apsou. Alors, je ne sais pas si vous avez une vision de la cosmogonie mésopotamienne, mais il y a effectivement ces eaux douces primordiales qu'on appelle Apsou, dans lesquelles demeure Enki, le grand dieu Enki et son épouse. Donc quoi qu'il en soit, à partir du premier millénaire avant notre ère, ce monde souterrain, qui est séparé du monde des vivants par l'Apsou, se peuple d'êtres démoniaques qui harcèlent les guidim. Quand les guidim ne reviennent pas hanter les vivants ici-bas sur Terre, alors dans ce monde souterrain, ils sont harcelés par des êtres démoniaques. C'est important de le signaler parce que, bien sûr, ça prépare clairement l'enfer des chrétiens, où les damnés sont suppliciés par des démons. Mais je le redis encore une fois, ça n'est qu'à partir du premier millénaire avant notre ère qu'en Mésopotamie on a cette image. Et ce monde souterrain, dirigé par une déesse qui règne en maître dans ce monde souterrain, elle s'appelle Ereshkigal, elle est la sœur aînée d'Ishtar. Parfois elle se confond toutes les deux, mais enfin il faut bien quand même les distinguer. La déesse Ereshkigal, la sœur aînée d'Ishtar, qui va régner sur le monde souterrain. Et cette Ereshkigal, reine du monde souterrain, se confond, comme c'est indiqué sur la projection, avec une démone qui s'appelle Lilitu en acadien, connue dans la Bible en tant que Lilith, et vous savez que cette Lilith est la première femme d'Adam. Avant Ève, Adam a une épouse qui s'appelle Lilith, mais ça c'est un autre sujet que je n'ai pas à développer bien sûr aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'en Mésopotamie, il y a non seulement cette idée des esprits fantômes, des guidim qui reviennent hanter les vivants, et qu'il y a cette idée que ces guidim dans le monde souterrain sont suppliciés par des démons. Il y a des démons, il y a des diables finalement, dans ce monde souterrain. Tout ça, ça prépare le christianisme. Enfin, pour conclure sur ce sujet, d'ailleurs je crois que j'avais aussi vous montré cette image que vous connaissez, que je montre souvent, qui est justement donc Adam et Ève, et la figure du tentateur, ou de la tentatrice finalement, du diable qui se tient au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette figure a bel et bien une tête féminine pour appeler Lilith. La Lilith qui se venge comme cela d'avoir été chassée par Adam, donc remplacée par Ève si vous voulez, elle tente Ève. Bon, alors pour conclure sur les Mésopotamiens, Les Mésopotamiens sont aussi les auteurs d'une abondante littérature dite exorcistique. Donc là aussi, c'est important de le signaler, on croit en des possessions, il y a donc des exorcistes, il y a des recueils magiques qui existent, spécialement conçus pour contrer les maux provoqués par le courroux des divins. En réponse, par exemple, à un mauvais comportement, donc on peut effectivement être possédé, donc ce sont des fantômes errants, des démons de toutes sortes, voire même des sorciers, et donc pour refouler donc ces démons, ces fantômes, ces sorciers qui menacent l'existence des vivants, il faut des exorcistes. On a les recueils donc magiques à ce propos pour la Mésopotamie, mais encore une fois, ça n'est pas notre sujet du jour. Notre sujet du jour, je vous le rappelle, c'est les fantômes dans le monde romain. Alors à ce propos, vous avez besoin d'un document, enfin besoin, peut-être pas, mais en tout cas, ça peut être donc plus pratique d'avoir cette feuille photocopiée sous les yeux pour peut-être suivre plus agréablement la conférence d'aujourd'hui. Alors les fantômes dans le monde romain, là aussi, une première remarque peut être dite, lorsque la mort survenait, les Romains pensaient qu'il était nécessaire de procéder au rite funéraire de façon précise, de façon extrêmement précise, car si la sépulture n'était pas parfaite, si les rites en question, les rites funéraires, étaient mal accomplis, alors dans ce cas, l'esprit du mort pouvait ne pas rejoindre les dieux-mânes, car en effet on croit dans le monde romain de l'Antiquité que l'esprit du mort, l'âme du défunt si vous voulez, est censée rejoindre les dieux-mânes. Mais voilà, donc si la sépulture n'a pas été bien faite, si les rites sont mal accomplis, l'esprit revient sous la forme d'un fantôme pour tourmenter les vivants, et ce qu'ils réclament, c'est tout bêtement des rites funéraires corrects, une sépulture correcte, décente. Bon, alors on va le voir, on va le développer, mais je souhaite dans une deuxième partie mettre en relation ce qu'on aura dit dans la première à propos des Romains, ce qui existe chez les chrétiens. Comprenez bien, alors d'abord les chrétiens, la société chrétienne est dans la continuité du monde romain, voire carrément donc une société qui a hérité tout simplement du monde romain. Or pour les chrétiens, les rites funéraires ne revêtaient pas autant d'importance que pour les Romains de l'Antiquité. Les rites funéraires chez les Romains sont extrêmement suivis, les rites funéraires et la tombe, pour la raison que j'ai dite à l'instant, et on va la développer. Par contre, pour les chrétiens, non. Non, non, ça ne revêt pas autant d'importance. Vous devez comprendre quelque chose, que pour les chrétiens, la mort ne représente qu'une étape entre la vie terrestre et la vie éternelle dans l'au-delà. C'est-à-dire l'espoir de vivre à la fin des temps dans ce paradis, ce paradis qui reviendra. Bon, et donc effectivement, viennent ensuite la résurrection de tous les hommes morts à la fin des temps. Cette image est extrêmement importante dans le christianisme. Il faut toujours insister sur ce point parce qu'il y a des confusions parfois. Les chrétiens, parmi lesquels les catholiques, croient qu'à la fin des temps s'opérera la résurrection de tous les hommes et femmes morts, de tous les corps, mais cette résurrection est une résurrection physique. Les corps physiques renaissent à la fin des temps. C'est la croyance. Et par conséquent, dans ce contexte-là chrétien, où on espère un paradis, où on attend une résurrection corporelle à la fin des temps, et ensuite effectivement il y a ce jugement qui distribue les gens selon les actes qu'ils ont accomplis, dans ce contexte-là, vous devez comprendre que les apparitions fantomatiques n'ont pas lieu d'être dans le christianisme. Les fantômes ne devraient pas exister. Les fantômes, les apparitions fantomatiques n'ont pas lieu d'être, hein, a priori, si on s'en tient à ce que l'on a dit sur le christianisme. Et cependant, on en rencontre parfois dans les écrits chrétiens de l'époque. Et la question qui va se poser, c'est la suivante, comment l'expliquer ? Alors que donc la religion chrétienne est ce qu'elle est, bon j'en ai dit deux mots, en tout cas ce n'est pas bien sûr la religion des Romains de l'Antiquité. Les Romains de l'Antiquité sont a priori seulement des polythéistes, pas les chrétiens qui sont monothéistes. Bon, puis donc la visée, la vision donc de l'au-delà n'est pas la même. Bon, alors effectivement, comment expliquer qu'on puisse rencontrer des fantômes, qui sont ces fantômes, dans le christianisme ? Par contre, si les apparitions fantomatiques n'ont pas lieu d'être, si cependant il y a quelques écrits chrétiens qui les présentent. Par contre, les apparitions du diable sont extrêmement courantes dans les textes, notamment les textes du Moyen-Âge, dans le cadre du christianisme. Mieux, le diable est décrit. Donc, prenons l'exemple de Raoul le Glabre, enfin, je rappelle plutôt l'exemple de Raoul le Glabre, le moine clunisien, donc du XIe siècle, qui a vu le diable, il l'a même vu trois fois, et donc il peut le décrire avec une précision redoutable. Et la description qu'il donnera du diable sera bien sûr donc reprise par les peintres ou même les sculpteurs. Alors, effectivement, des apparitions du diable qui sont courantes, des miracles qui sont alors à l'appel, bien sûr, dans le cadre du christianisme, et des revenus posthumes. Donc il faut juste préciser que là, dans ce cas, ce sont des saints, donc des personnages du christianisme qui ont été canonisés. Donc on montrera tout à l'heure l'exemple de saint François. Saint François peut revenir après sa mort pour conseiller tel ou tel franciscain, par exemple, et ça c'est effectivement assez banal, les revenus posthumes, mais les revenus posthumes des saints, les personnages finalement les plus saints du christianisme, tel saint François. Donc voilà les deux parties que je vous propose de développer. Donc on commence aussitôt par les Romains. Alors bon, plusieurs textes latins antiques soulignent cette crainte des païens à propos des apparitions fantomatiques. On a peur des fantômes, donc sous l'Antiquité romaine. Et elles sont dues, ces apparitions, à un mauvais traitement du corps, c'est-à-dire incinération, inhumation des restes, défectueuse l'inhumation ou l'incinération, parce qu'en pratiquait les deux, donc dans l'Empire romain, sont défectueuses. Alors on va voir ça très précisément, c'est-à-dire on va prendre un exemple qui est un exemple de rituel précipité. Quand les rituels funéraires sont trop précipités, dans ce cas, le défunt reviendra hanter les vivants. Alors le texte, c'est le texte de Suétone. Vous avez la feuille, votre bibliographie, je crois, sous les yeux. C'est le texte de Suétone. Suétone qui va évoquer dans les vies des 12 Césars la mort de l'empereur Caligula. Il est mort en 41 de notre ère, et là on peut constater à quel point un traitement inadapté du cadavre peut avoir des conséquences tout à fait fâcheuses. Donc c'est l'exemple que l'on va prendre. On peut donc l'illustrer déjà comme ça. Voici une pièce qui montre d'un côté Caligula et de l'autre Agrippine, mère. Bon, et tout d'un coup, donc ça vous rappelle comment ou dans quel contexte Caligula est mort. Et alors justement, le texte de Suétone, dont vous avez la référence biographique sur la feuille, rapporte ceci, qu'après la mise à mort violente de Caligula, sa dépouille est, je cite, brûlée à demi sur un bûcher de fortune et recouverte d'une légère couche de gazon. Brûlée à demi. On a mal fait le rituel. Bon. Et donc cette procédure, sans conteste un mauvais soin du cadavre, résulte probablement de la précipitation avec laquelle sont pratiqués les rituels à l'égard donc de Caligula, du corps de Caligula. Donc c'est un rituel précipité. L'inhumation, parce que dans ce cas il a été inhumé, l'inhumation a sans doute été réalisée par ses proches, bon, qui, bon, peut-être ses sœurs, on ne sait pas, bon, sans doute ses sœurs d'ailleurs. Bon, alors quoi qu'il en soit, donc l'inhumation est réalisée par ses proches, selon la tradition, mais en toute hâte, rituel précipité. Et en effet, étant donné la façon dont l'empereur avait été tué, les membres de son entourage pouvaient craindre pour leur vie. Et donc, il est mort donc violemment, et les proches pouvaient craindre pour leur vie. Donc, ils vont pratiquer le rituel funéraire, mais dans la précipitation. Ils ont peur pour leur vie. Alors, ce sont, je le disais à l'instant, peut-être ses sœurs. Les sœurs de Caligula, qui, avant de partir en exil, procèdent ainsi, dans la précipitation, elles pratiquent le rituel funéraire, mais c'est précipité si vous voulez, donc elles procèdent ainsi, ou alors, les historiens disent, des familiers, alors familiers, il faut entendre par familiers, des esclaves, ou encore des affranchis, qui auraient procédé ainsi dans la précipitation. Bon, parce que ces ennemis, les ennemis de Caligula, auraient plutôt laissé pourrir son cadavre, ou l'auraient donné en pâture aux chiens. Ça se fait dans l'Empire romain, hein, enfin, dans le monde romain, si vous voulez. Hein. Dans ce cas, effectivement, si on veut viser un ennemi, on ne se soucie pas des rituels funéraires. Et on pratique ce que les Romains appelaient la damnatio memoriae. On efface partout le nom du défunt pour le rejeter, le jeter dans l'oubli total. Bon. Alors là, bon, oui, effectivement, c'est ou bien des familiers, ou bien les sœurs de Caligula qui ont procédé à ces rituels précipités, mais pas les ennemis de Caligula. Les conséquences n'en sont pas moins effroyables, c'est-à-dire que des spectres inquiètent ceux qui gardaient ces jardins, les jardins de Caligula, donc des spectres apparaissent, si vous voulez, et dans la maison où il était décédé, des manifestations horribles ont lieu chaque nuit. Le cadavre de Caligula mal inhumé était à l'origine de ces phénomènes qui tourmentaient les vivants. Et tout ça, c'est raconté par Suétone. Et Suétone, c'est pas quand même n'importe quel auteur de l'Antiquité. Bon, donc il raconte tout ça. Et alors, lorsqu'elles reviennent d'exil, parce que les sœurs ont dû s'exiler, lorsqu'elles reviennent d'exil, les sœurs décident de l'exhumer et de le brûler, de brûler le cadavre et de l'ensevelir décemment. Enfin, donc on a effectivement un processus, si vous voulez, de rituel funéraire qui est extrêmement protocolaire, qu'il faut suivre dans les règles, et c'est ce que feront les sœurs quand elles reviendront d'exil. Hein. À ce propos, je vous rappelle qu'à la fin du règne de Caligula, d'abord ce fin de règne de Caligula est marqué par plusieurs conjurations auxquelles justement sont associées les sœurs Agrippine la Jeune et Julia Livilla. Et quoi qu'il en soit, elles reviennent d'exil, elles pratiquent ces rituels plus correctement, et à partir de là, Suétone, le même auteur, ne fait plus mention de phénomènes particuliers. Ces bonnes funérailles ont apaisé le mort, ont apaisé donc Caligula. Le texte que vous avez sous les yeux, donc on peut le lire ensemble, donc c'est à propos de ses funérailles, son exhumation, mort de Césonia et de sa fille. Alors voilà donc le texte qui dit « Il vécut 29 ans et en régna 3, 10 mois et 8 jours. Bon. Son corps fut porté secrètement dans les jardins de Lamia, c'est les jardins que j'évoquais tout à l'heure, brûlé à demi sur un bûcher fait à la hâte, puis enterré et recouvert de gazon. Quand ses sœurs revinrent de leur exil, elles l'exhumèrent, le brûlèrent et ensevelirent ses cendres. On sait que ceux qui gardaient ces jardins étaient inquiétés par des fantômes et que la maison où il fut tué était chaque nuit troublée par quelque bruit terrible jusqu'à ce qu'elle fût consumée par un incendie. L'épouse de Caius, Césonia, périt en même temps que lui sous le glaive d'un centurion et sa fille fut écrasée contre un mur. Incroyable, on se croirait dans un film d'horreur, hein, donc, où effectivement, tout d'un coup, c'est comme un jeu de domino, donc tous ceux qui ont approché donc l'esprit malveillant donc vont mourir. Hein. Bon, alors voilà, ça vous donne donc une petite idée. Alors bon, ça c'est un exemple. C'est l'exemple, je le disais à l'instant, du rituel précipité. Donc ça sont des rituels précipités. Donc vous avez la conséquence des rituels précipités, donc comment le défunt revient hanter les vivants, et quelle est la solution finalement. Il faut refaire les choses, hein, donc il faut les reprendre. C'est le sens même d'ailleurs du mot religion. Hein, vous savez que religion n'a pas pour étymologie donc le mot religere, c'est pas relier. Hein, donc je vous renvoie à Benveniste, mais l'étymologie donc de religion, c'est bien le scrupule dans le sens que l'on décide à un moment de revenir en arrière pour refaire les choses correctement. Hein, c'est le sens étymologique du mot religion tel qu'il est employé, inventé même, on pourrait dire, par les Romains à partir, disons, du 1er siècle avant notre ère. Bon, alors là-dessus, il y a un deuxième cas, c'est le cas de la dépouille entravée. La dépouille entravée. Après les rituels précipités, la dépouille entravée. Alors ça, c'est l'exemple que nous donne Pline le Jeune. Alors vous avez la référence sur votre photocopie, sur votre feuille, et donc on va le développer. Je crois que je l'avais noté d'ailleurs sur la projection, mais enfin vous avez la même chose, hein, je crois, sur votre photocopie. Donc Pline le Jeune, qui, dans une lettre à son ami s'appelle Licinius, donc ce qui permet de situer, livre 7, lettre 27 de Pline le Jeune. Donc Pline le Jeune traite longuement de fantômes et rapporte ce qu'il a entendu dire à ce sujet. Et il raconte ainsi qu'il y avait une maison maudite à Athènes. Il rapporte ces faits. Et il explique, Pline le Jeune, que la nuit, on pouvait y entendre des bruits de chaînes, puis voir apparaître un vieillard, je cite, exténué de maigreur et en haillons, avec une grande barbe et des cheveux hérissés. Bon, à partir de là, Pline décrit les entraves que l'homme portait aux pieds et les fers qui liaient ses mains. Ce fantôme, car c'est un fantôme, était vraisemblablement celui d'un prisonnier, nous dit Pline le Jeune. Et une fois, une nouvelle fois, le mort mal enterré, toujours ces rituels qui sont mal faits, le mort mal enterré n'avait pu rejoindre les dieux mânes. Or, c'est justement le but. Donc, les défunts doivent rejoindre les dieux mânes par des rituels qui sont les plus précis possibles. Et faute de rituels funéraires correctement pratiqués, ben voilà, donc le défunt hante les vivants. Donc, il se manifeste comme l'explique Pline le Jeune. Mais l'histoire va un petit peu plus loin. Donc, nous sommes à Athènes, dans une maison qui est maudite, et cependant un philosophe qui s'appelle Athénodore, dont on va voir le donc voilà donc là l'image qui est ici. Le philosophe Athénodore, malgré tout, loue cette maison. Alors qu'on lui a dit, on lui a expliqué donc que c'était une maison maudite, donc comme l'a très bien signalé Pline. Mais enfin bon, le philosophe Athénodore, nous dit Pline, loue cette maison et voit l'apparition fantomatique qui lui indique de le suivre. Et Athénodore, le philosophe, s'exécute pour arriver dans la cour de la maison où le fantôme s'évanouit. Donc il disparaît totalement. À cet endroit, Athénodore demande qu'un trou soit creusé. On y découvre des restes humains engagés dans des fers, ce qui corroborerait l'hypothèse selon laquelle le fantôme était celui d'un prisonnier. À partir de quoi, la dépouille est ensuite ensevelie correctement et la maison ne fut plus jamais visitée par le fantôme en question. Quant au texte, oui, vous l'avez donc le texte, donc on va le lire ensemble parce qu'il est quand même tout à fait fameux, le texte de Pline l'Ancien qui dit ceci. Hein. « Dans le silence de la nuit, on entendait un froissement de fer en écoutant avec attention le retentissement de chaînes agitées. Le bruit semblait d'abord venir de loin et ensuite s'approcher. Bientôt apparaissait le spectre, c'était un vieillard maigre et hideux, à la barbe longue, aux cheveux hérissés, ses pieds et ses mains étaient chargées de fer qu'il secouait. Athénodore, le cananite, s'installe dans la maison et attend l'arrivée du fantôme. Celui-ci ne tarde pas à se manifester bruyamment et l'invite à le suivre. Le fantôme marchait d'un pas lent, il semblait accablé par le poids des chaînes. Arrivé dans la cour de la maison, il s'évanouit tout à coup aux yeux du philosophe. Celui-ci marque le lieu où il a disparu par un amas d'herbes et de feuilles. Le lendemain, il va trouver les magistrats et leur demande de faire fouiller en cet endroit. On trouve des ossements encore enlacés dans des chaînes. Le corps, consumé par le temps et par la terre, n'avait laissé au fer que ses restes nus et dépouillés. On les rassemble, on les ensevelit publiquement, et après ses derniers devoirs, le mort ne troubla plus le repos de la maison. C'est le texte de Pline le Jeune. Alors bon, là vous avez deux exemples qui sont très très intéressants, Suétone et Pline, qui nous disent effectivement ce qui se passe quand le défunt n'arrive pas finalement dans le domaine des dieux mânes. Et on va en tirer donc une leçon ou une conclusion même, on pourrait dire, pour les païens, faire, c'est croire. Ça, c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, c'est pour les païens, pas seulement pour les romains. Hein, c'est pour toutes les civilisations de l'Antiquité, dans toutes les religions de l'Antiquité. Faire, c'est croire. Comprenez bien. Faire les rites funéraires. Hein, pratiquer ce que la religion demande de pratiquer, c'est-à-dire des rites. Je m'explique autrement. Vous pouvez, si vous voulez, voler. vous pouvez être criminel, vous pouvez assassiner les gens, vous pouvez être tout à fait immoral, hein, donc vicieux, donc ce que vous voulez, si vous pratiquez les rites d'une façon extrêmement précise, d'une façon très protocolaire, vous obtiendrez le paradis. Faire, c'est croire. Et à partir du moment où vous faites correctement ce que la religion des païens vous demande de faire sur le plan donc des rites, c'est-à-dire honorer les dieux, faire des offrandes aux divinités, alors voilà, donc vous obtiendrez le paradis. Alors que parallèlement, donc votre vie a été parfaitement immorale. Bon, ça c'est pour les païens, hein. C'est vrai d'ailleurs partout, à peu près partout, sous l'Antiquité. Faire, c'est croire, hein. Il est crucial de pourvoir le mort d'une sépulture correcte et de prendre le temps nécessaire à l'accomplissement du rituel, afin qu'il puisse trouver le repos. Dans le cas contraire, le fantôme ne pouvant rejoindre les dieux manes, tourmente les vivants jusqu'à l'obtention d'une sépulture décente. C'est la conclusion à propos de la première partie. À ça, on va juste ajouter quelques images qui m'ont paru tout à fait édifiantes, c'est-à-dire elles illustrent parfaitement donc ce propos. Voilà une scène de prière qui est vraiment très remarquable, très exceptionnelle, une scène de prière omane, de patron. Patron, c'est un homme, si vous voulez, c'est un médecin grec, comme c'est indiqué, là vous avez vraiment un document extraordinaire, un fragment du décor peint de la tombe de Patron, médecin grec. Attention cependant, la tombe se trouve à Rome, porte Capena, date de la fin du 1er siècle avant notre ère, et la peinture se trouve aujourd'hui exposée au Louvre. Bon, donc alors oui, il y a un point d'interrogation, vous l'avez remarqué, parce qu'après tout, on ne sait pas si c'est vraiment une scène de prière omane de Patron. Mais comme on est dans la tombe de Patron et comme on a une scène de prière omane, bon, on peut supposer que c'est les manes de Patron. Voilà pour cette scène qui est effectivement tout à fait exceptionnelle. Donc là, effectivement, on peut imaginer que Patron a été enterré très correctement. On a suivi tout le protocole des rituels funéraires. Donc ça c'est une première image qui me paraissait intéressante. On voit ici une deuxième qui montre bien que les Romains sont très très attachés à tout cela, très très attachés à tout cela. Donc deux hommes qui transportent un défunt dans son linceul, et là aussi il s'agit bien sûr de respecter le plus correctement possible le rituel funéraire. Il ne s'agit pas effectivement de laisser le défunt pourrir dans un coin, donc il s'agit de pratiquer le rituel, de lui donner une sépulture décente, et le fait que ça soit représenté donc sous forme de sculpture, de bas-relief ou de peinture, ou le fait que ça soit dit dans les textes latins de l'Antiquité, ça montre à quel point c'était très très important pour les Romains de l'Antiquité. Alors voilà ce deuxième document qui me paraissait intéressant. Même si c'est un sarcophage paléochrétien, hein, donc ça, là on reste, ben justement, c'est très intéressant de rappeler qu'on est toujours dans la continuité avec le christianisme et la société chrétienne qui s'annonce, on est dans la continuité du monde romain. Et voici encore un document qu'on avait vu, justement, dans la conférence précédente qui parlait des rituels autour des portes. Et je vous rappelle juste l'essentiel, c'est une image qui était vraiment spectaculaire, donc un sarcophage superbe, qui donne une représentation allégorique des quatre saisons. Ce sont les quatre figures qui sont réparties à gauche et à droite de part et d'autre de la porte, qui est la porte de l'au-delà, si l'on veut, et des petites figures qui l'accompagnent, qui viennent flanquer, justement, aussitôt, la double porte romaine qui représente l'entrée de l'au-delà. Donc les petites figurines sont là, voilà, donc qui viennent accompagner les quatre saisons. Pourquoi quatre saisons? Parce que justement les quatre saisons évoquent un cycle, et c'est ce que l'on espère pour donc le cycle de la vie et de la mort, que ce cycle continue et continue encore comme se poursuit année après année le cycle des saisons. D'où les quatre saisons qui sont ici. Et je vous rappelle, c'est juste un petit rappel, que les deux figures qui sont de part et d'autre de cette porte de l'au-delà sont des figures protectrices, justement, des portes, et plus précisément des gonds. On a par exemple Cardea. Cardea, en latin cardo, ça signifie le gond, et Cardea était la déesse protectrice des portes, plus particulièrement des gonds, et Ovide, pour citer, enfin pour signaler plutôt Ovide, Ovide nous dit qu'elle pouvait ouvrir ce qui était fermé et inversement. Il parle de Cardéa, la déesse ou la divinité ou l'entité protectrice des Gonds. Cardéa toutefois n'est autre que la nymphe Carna, après que le dieu Janus, le dieu aux deux visages qu'on avait évoqué justement au cours de la précédente conférence, lui a donné le pouvoir d'ouvrir les portes et de protéger les enfants. Et Carna deviendra la parèdre de Janus et on la présentera sous ce nom de Cardéa, donc protectrice des Gonds, parce que Janus est aussi un dieu protecteur des portes. Bon, ça c'est un petit clin d'œil à la conférence précédente pour relier finalement ce que l'on a dit la fois précédente et ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Donc là encore une fois, c'est l'illustration de quelque chose qui est de très réglé, de très protocolaire. Le sarcophage monumental qu'on a sous les yeux, très très bien décoré, dit que le défunt qui est à l'intérieur a été inhumé selon les règles de l'art. Donc il n'embêtera pas effectivement les vivants, il ne reviendra pas les hanter. Alors là-dessus, passons aux chrétiens. Donc on aborde la deuxième partie de cette conférence. Alors les chrétiens, alors oui, je vous rappelle effectivement une chose qui paraît importante à dire, parce que finalement, à rebours, ça n'est pas si évident. Dans le christianisme des premiers siècles, dans le monde paléochrétien, a priori, de telles apparitions, comme il en existait dans le monde romain, de telles apparitions n'ont pas lieu d'être, puisque l'inhumation en soi n'a pas d'importance. Comprenez bien que dès lors que l'on croit qu'il y aura une résurrection de la chair à la fin des temps en vue d'un jugement dernier, donc l'inhumation n'a pas d'importance. Qu'on soit inhumé ou pas, ça n'a pas d'importance pour les paléo-chrétiens, pour les premiers chrétiens. Bon, alors effectivement, on peut le visualiser, ça, hein, ça rafraîchira peut-être un peu la mémoire. Donc voilà donc un jugement dernier qui est fameux, très célèbre, monumental, gigantesque. C'est une mosaïque au revers de la façade de la cathédrale de Santa Maria Assunta à Torcello, une île de la lagune voisine de Venise. Cependant, c'est dès le XIe siècle que l'on construit cette cathédrale. Elle est juste antérieure à la basilique Saint-Marc. Hein. Et le décor de mosaïque est lui aussi légèrement antérieur à celui de la basilique Saint-Marc. Donc on se situe à la fin du XIe siècle. C'est un jugement dernier, c'est complexe comme image. Enfin, je ne vais pas la décrire, bien sûr, mais on va aller à l'essentiel. C'est un jugement dernier. Donc il y a forcément sur cette mosaïque la représentation de la résurrection des corps à la fin des temps. Et c'est sur ce registre-là, précisément, que l'on découvre, de part et d'autre, justement, de la balance, qui est la balance du jugement dernier, qu'on va découvrir à gauche et à droite comment la terre d'un côté, la mer de l'autre, rendent les morts. Ils rendent les morts. Alors on voit ça aussitôt, et l'image à gauche, on va commencer par l'image à gauche qui est au niveau du registre médian, là ici, hein, donc que j'agrandis aussitôt, et l'image à droite aussi, du même coup. Donc voilà les deux détails, et ce qui est très très intéressant, c'est bien sûr de constater ce qui se passe à la fin des temps. Et c'est comme ça que vous devez comprendre pourquoi l'inhumation, pour les chrétiens, a priori, et surtout pour les paléo-chrétiens, n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, à la fin des temps, tous les corps, quels qu'ils soient, ressusciteront, et c'est une reconstitution des chairs qui s'opère physique, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? Voilà. Donc, vous avez les animaux de la terre, hein, pour manifester effectivement la présence de la terre. Donc, c'est bien la terre ici, la terre qui rend ces morts. Vous voyez effectivement des cadavres ici, dans leur linceul, qui surgissent et qui tendent leurs mains vers Dieu, qui est censé effectivement procéder à cette fin des temps et à ce jugement dernier. Donc si vous le voyez mal, donc on va se rapprocher encore davantage, au son des trompettes du jugement dernier, comme on les voit à droite, la terre a l'obligation de rendre tous ses morts. Bon, ça c'est pour la terre. Et à droite, c'est la mer. Voilà, c'est la mer, c'est-à-dire que vous avez donc un deuxième angle ange qui sonne de sa trompette pour signaler l'échéance, le terme, c'est-à-dire la fin des temps. Et à la fin des temps, remarquez, effectivement, ce qui s'opère, la mer, sous la forme alors de dragons, oui, c'est comme des dragons marins, finalement, rejettent ce qu'ils ont avalé. Les dragons marins sont une incarnation de la mer, hein, donc doivent rejeter les défunts. Donc vous avez des corps ici, je ne sais pas si vous les voyez, des corps qui sortent effectivement de la gueule de ces monstres. Ou alors c'est un pied, mais le pied donc n'est pas avalé par le poisson, c'est tout le contraire, les poissons, les animaux, donc la terre, la mer, recrachent ces corps. Hein. Voilà, donc s'opère une résurrection physique de tous ces corps, qui passeront devant leur juge et iront soit en enfer, soit au paradis. Bon, alors, c'est comme ça que vous devez comprendre en effet pourquoi il ne devrait pas y avoir d'apparition ou de fantôme dans le monde chrétien. Mais il y a des exceptions, et des exceptions qui sont quand même des exceptions de taille. Alors, d'ailleurs, une des exceptions, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la revenue posthume du saint. Alors, par exemple, c'est une image très très célèbre parce qu'on la doit à Giotto, le grand peintre Giotto, donc saint François, qui revient auprès des franciscains du chapitre d'Arles pour les conseiller, donc le mieux du monde si vous voulez, mais la revenue de saint François est bien posthume dans ce cas. Donc c'est très très célèbre. C'est à Santa Croce, dans une chapelle de Santa Croce à Florence, la grande église des franciscains de Florence, que l'on voit cette peinture tout à fait admirable. Admirable pour des raisons bien sûr stylistiques. Nous sommes au début du XIVe siècle et vous savez qu'à cette époque, aucun peintre ne peint comme Giotto. Hein, Giotto est un peintre révolutionnaire. Bon, enfin c'est pas le lieu de parler de la peinture de Giotto, évidemment. Donc là ici, que ça ne nous trompe pas, le saint François qui est ici est un saint François qui est mort depuis très très longtemps. Mais il revient. Il revient, c'est un revenant, si vous voulez, hein, ou comme un fantôme. Il revient pour conseiller les franciscains du chapitre d'Arles. Donc il y a ainsi des exceptions. Mais cette exception-là, on va dire, bon, elle se comprend, donc c'est un saint qui est important dans le christianisme. On n'imagine pas un seul instant qu'après sa mort, ce saint reste donc dans un état végétatif, c'est-à-dire attendant la fin des temps et la résurrection des corps. Non, donc c'est un cas particulier, donc c'est saint François d'Assise, par conséquent, il habite déjà le paradis, si vous voulez, bon, alors qu'il revienne voir les vivants. Pourquoi pas? Mais il y a d'autres exemples, d'autres exceptions qui sont quand même plus étonnantes dans le cadre du christianisme. Et là, on va retrouver le cas de l'absence de sépulture. Bon. Et là, vous avez besoin de la référence qui est la suivante logiquement. Voilà, Constance de Lyon. Hein, j'ai mis donc les références à la suite les unes des autres par rapport à mon propos. Donc, Constance de Lyon, la vie de Saint-Germain d'Auxerre. Alors donc, vous avez ce texte-là, et ce texte-là va nous permettre effectivement de développer cette référence très intéressante. Alors, dans un passage de la vie de Saint-Germain qui a été écrite par Constance de Lyon, on apprend que le saint Germain choisit, lors d'un voyage, de faire étape dans une maison que l'on disait inhabitable parce que hantée d'une façon terrifiante. Alors ça c'est très intéressant parce que on constate que rien ne change. On passe du monde romain, païen, polythéiste, où donc le but est de conduire le défunt auprès de ses dieux mânes. Bon, à un monde christianisé, et cependant, n'y a pas de différence, en tout cas pour l'instant. Donc, on nous parle d'une maison hantée. Bon, alors continuons. Donc, Germain choisit de faire étape dans cette maison. Il se dirige vers, je cite, les épouvantables ruines, comme si elles étaient des lieux pleins de charme, s'y installe et s'endort, tandis qu'un de ses clercs restait éveillé. C'est alors qu'un effroyable spectre apparaît, réveillé par le clerc Germain, et je cite toujours, après avoir invoqué le nom du Christ, lui commande d'avouer qui il était et ce qu'il faisait là. Immédiatement, ayant abandonné son apparence effrayante, il s'exprime d'une voix humble et suppliante, lui et son compagnon gisaient sans sépulture, et s'ils tourmentaient les vivants, c'est qu'ils ne pouvaient être eux-mêmes en repos, il lui demandait de prier le Seigneur afin qu'ils méritassent d'être admis au repos éternel. Voilà donc le texte. Alors, on remarque ici que le spectre qui est donc décrit, qui est vu par Germain, il est même réveillé carrément par ce spectre. Le spectre en question perd son apparence effrayante à l'invocation du Christ. C'est-à-dire que le texte, je le rappelle, dit ceci, Germain, après avoir invoqué le nom du Christ, lui commande à ce spectre d'avouer qui il était, etc., etc. Et donc il perd aussitôt son apparence effrayante, le texte dit là, donc immédiatement, ayant abandonné son apparence effrayante, donc il perd cette effrayante apparence à l'invocation du Christ, puis il demande que l'on prie Dieu, c'est toujours le spectre qui demande ça, il demande que l'on prie Dieu afin de pouvoir reposer en paix. Bon. Alors donc c'est le récit de Constance de Lyon à propos de la vie de Saint-Germain. Si c'est dans cette histoire seulement une mauvaise inhumation qui empêche le mort de trouver le repos, si ça n'est que cela, alors nous sommes face au même processus que dans la pensée païenne. Donc il n'y a pas différence. Il n'y a pas différence, il y a juste quelque chose qui est quand même une différence, on pourrait presque rajouter qui sauve le texte chrétien. Dans ce texte de Constance de Lyon, ensevelir le mort dans les règles ne suffit pas, alors que ça aurait suffi dans le monde romain, là ça ne suffit pas. Le spectre demande également que des prières soient dites pour le salut de son âme, finalement. Bon, donc dans la religion chrétienne, croire, c'est avoir la foi en la résurrection et prier. Dans le monde romain, faire, c'est croire. Par contre, dans la religion chrétienne, croire, c'est avoir la foi en la résurrection et prier. Les actes sont parfois insuffisants, voire inutiles. Je le redis encore une fois, dans cette histoire, ensevelir le mort dans les règles ne suffit pas. Agir, faire, est insuffisant. Il faut autre chose, il faut prier. Donc c'est pour ça que je le redis encore une fois, dans cette religion chrétienne, croire, c'est avoir la foi en la résurrection et prier. Les actes sont parfois insuffisants, voire inutiles. Bon. Le problème des apparitions fantomatiques liées à une mauvaise sépulture ne fait pas l'unanimité chez les chrétiens, loin de là. C'est pour ça que je pense qu'on peut parler de problème. C'est un problème dans le christianisme, ces apparitions fantomatiques. Bon. Et effectivement, ce problème entre en contradiction avec la pensée de la majorité des théologiens, qui, à l'instar de Tertullien, qui est très célèbre, ou mieux encore, Augustin, à l'instar de Tertullien ou Augustin, ces théologiens pensent, théologiens chrétiens, pensent que l'inhumation n'était qu'une consolation pour les vivants et n'avait aucune incidence sur la résurrection future. Que vous soyez jeté dans une fosse commune, ou que vous pourrissiez finalement sur le bord donc d'un chemin, ou que vous ayez une tombe majestueuse, pour Tertullien et pour Augustin, ça n'a aucune incidence sur la résurrection future. Bon, et certains ascètes égyptiens, donc ils sont des chrétiens bien sûr, et là on parle de paléo-chrétiens, des tout premiers chrétiens, qui étaient des fous de Dieu, les premiers chrétiens étaient pour la plupart des fous de Dieu. Et donc certains ascètes égyptiens, pour pas qu'il y ait de confusion chrétien-égyptien, à la fin du 4e siècle de notre ère, alors que l'Empire romain à cette époque est entièrement christianisé, bien sûr, certains ascètes égyptiens demandaient même que leurs cadavres soient jetés aux chiens et ainsi dépourvus de sépulcre. C'était pour eux une façon de rompre et de trancher avec les pratiques païennes, les pratiques de l'Antiquité romaine. C'est un choc, si vous voulez, c'est brutal, mais c'est pour dire, voilà, donc on rompt totalement avec ce qui existait auparavant. Alors, bon, donc, effectivement, là, on a une position qui est très dure, si vous voulez, très caractéristique des paléochrétiens. Et comme ça, la communauté des chrétiens n'avait plus à se demander si l'inhumation était d'une quelconque importance, puisqu'elle devenait impossible, finalement. Alors, justement, on va citer Augustin, maintenant. Alors, c'est la référence suivante sur la feuille, la référence biographique qui va s'afficher d'ailleurs ici sur la projection également, dans un petit instant ça va arriver. Ah, dans cet opuscule intitulé De cura pro mortuis gerenda, vous l'avez sur la projection, vous l'avez aussi sur la photocopie, c'est-à-dire des soins dus aux mortels, Augustin, saint Augustin, père et docteur de l'Église, s'interroge sur la réalité des fantômes. Là, il va s'interroger sur la réalité des fantômes. Et il donne la raison pour laquelle ces morts se manifestent. Il nous dit, Augustin, c'est que ces fantômes veulent indiquer aux vivants l'endroit où gît leur corps en attente d'une inhumation décente. Décidément, vous voyez que la pensée romaine de l'Antiquité a du mal donc à disparaître. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux, comme ça, ça permettra de sauver une bonne part de la culture de l'Antiquité romaine au sein de ce christianisme. Bon, alors, donc quoi qu'il en soit, c'est ce que rapporte Augustin. Dans les textes païens, c'est la même raison qui est invoquée, nous l'avons dit. Mais pour Augustin, les apparitions fantomatiques comme les inhumations, et là je cite Augustin, c'est tiré de ce texte-là, sont une consolation pour les vivants, ils voient dans leur sommeil l'image de mort qui leur reste chère. Alors ça c'est intéressant, ils voient dans leur sommeil l'image de mort qui leur reste chère, c'est pourquoi l'inhumation est une consolation pour les vivants. Oui, on peut être quand même un peu humain, quoi, hein, dans cette histoire-là, hein, parce que les ascètes égyptiens chrétiens ne le sont pas du tout, avec cette rupture brutale par rapport aux pratiques antérieures. Hein. Un peu d'humanité, quoi. Bon, ou alors de tolérance à l'égard de la faiblesse humaine qui a besoin effectivement de s'accrocher à l'image de la personne défunte et le fait par bien sûr une inhumation, un tombeau, un sarcophage, que sais-je. Bon, alors les apparitions n'émanent pas d'un choix conscient des défunts. Ça, c'est aussi ce qui se rapporte dans le texte d'Augustin. C'est pas un choix conscient des défunts. Elles auraient en fait pour origine, nous dit Augustin, que je cite encore une fois, c'est toujours tiré du même texte. Donc l'origine, ce serait, dit-il, une intervention des anges qui, avec la permission ou sur l'ordre de Dieu, font savoir aux rêveurs que telles morts sont à ensevelir, et cela à l'insu des morts eux-mêmes. Ah, c'est par le biais d'une vision, en fait, d'un rêve, exactement comme dans le monde amérindien. Si l'on veut. Donc une vision. C'est pour ça qu'il disait Augustin, ils voient dans leur sommeil l'image de mort qui leur reste chère. C'est que en fait, on apprend que les anges ou Dieu font savoir aux rêveurs que tels morts sont à ensevelir, et cela à l'insu des morts eux-mêmes. Bon, pourtant, dans les textes chrétiens, les témoins des apparitions fantomatiques ne sont pas, ou plus, endormis du tout. Donc Augustin a trouvé, disons, un compromis, un consensus entre cette idée qu'il y a peut-être encore des apparitions fantomatiques, mais ces apparitions ne sont finalement que des rêves. Et cependant, dans les textes plus tardifs des chrétiens au Moyen Âge, c'est pas des rêves, quoi, c'est pas des visions du tout. Ils sont bel et bien réveillés, en état de conscience. Cela d'ailleurs ne va pas arrêter Augustin. Augustin qui estime que même éveillé, on peut avoir des visions. Même éveillé, on peut avoir des visions. Et s'adresser par conséquent à des personnes absentes, qu'elles soient vivantes ou mortes. Et pour lui, pour Augustin, les apparitions ne sont pas dues à une quelconque volonté des morts, comme je disais à l'instant. Il va prendre un exemple, ou il prend pour preuve plutôt, le fait que Monique, Monique, c'est sa maman, qui est morte en 387. Monique, qu'il a beaucoup aimé, bon, Monique ne s'est jamais manifestée à lui ce que son amour maternel l'aurait incité à faire si cela avait été possible. Donc, ça n'est pas de la volonté des morts. Les morts n'y peuvent rien du tout, c'est de l'ordre du rêve, même si c'est un rêve éveillé, c'est de l'ordre du rêve pour Augustin. Mais on va aller plus loin quand même. D'ailleurs, je le disais à l'instant, dans les textes plus tardifs chrétiens, les apparitions fantomatiques sont, c'est quelque chose de concret, quoi, de très très concret, d'éveillé. Bon, alors c'est vrai qu'il peut paraître surprenant que les apparitions fantomatiques aient existé dans la pensée chrétienne, bon, comme dans la pensée païenne à l'époque romaine. Bon, donc c'est-à-dire le parallèle qu'il y a la même chose dans le monde romain. Bon, ça se comprend bien sûr. On a expliqué pourquoi. Mais que ça se retrouve de la même façon, pareillement dans la pensée chrétienne, ça peut effectivement paraître surprenant. Certains théologiens ont tenté de trouver une explication à ces phénomènes incompatibles avec l'idée chrétienne de l'au-delà. Donc c'est notamment Augustin qui essaye de trouver donc une solution, finalement, un compromis plus qu'une solution. Leur interprétation diffère notablement de celle émise dans le monde païen. C'est le signe des divergences qui sont profondes dans la conception de la mort par chacune de ces religions. C'est-à-dire, on le redit encore une fois, si dans un premier temps, c'est-à-dire dans le monde païen, faire les rites funéraires, c'est croire, et donc c'est ça qui est fondamental, pratiquer le plus correctement possible les rituels qui sont indiqués dans la religion. Dans la religion chrétienne, croire, c'est avoir la foi en la résurrection et prier. Les actes sont parfois, ou les rituels si vous préférez, sont parfois tout à fait inutiles. Bon, mais alors, je vous le disais à l'instant, allons un petit peu plus loin. Donc, alors, on peut faire un petit détour, effectivement, par Jean Gobi. Alors, Jean Gobi, avec qui on a un dialogue carrément d'outre-tombe. Donc, vous avez la source, c'est-à-dire, c'est le texte médiéval, qui est Jean Gobi le Jeune de l'Esprit de Guy, dialogue entre Jean Gobi et l'Esprit de Guy de Corvaux. Bon, c'est un texte de 1486, et si vous voulez plus de précision sur ce texte-là, qui est absolument incroyable, dans ce cas, je vous propose une bibliographie qui est signalée logiquement. Alors que je ne me trompe pas, est-ce qu'elle est signalée? Est-ce que j'ai signalé? Peut-être pas. Bon, j'ai oublié celle-ci. Donc, Jacques Chiffolo, La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort et la religion, dans la religion d'Avignon, à la fin du Moyen-Âge, puisqu'effectivement, on va se situer dans le Gard, dans ce cas. Hein. Bon, alors, donc, quoi qu'il en soit, sur la base de ces références bibliographiques, voilà que nous nous situons maintenant au XIVe siècle. Donc, en fait, l'histoire qui est racontée se rapporte au XIVe siècle, même si le texte a été publié beaucoup plus tard. Donc, nous sommes au début du XIVe siècle, dans la ville d'Alès, c'est-à-dire dans le Gard. Et là, une veuve, qui est parfaitement consciente, parfaitement éveillée, est terrorisée par la voix de son époux qui s'appelle Guy de Corvaux. Hein, donc c'est pour ça que vous avez ce titre, Dialogue entre Jean Gobi et l'esprit de Guy de Corvaux. Donc elle est terrorisée par la voix de son époux qui hante sa maison. Aussitôt, elle va demander secours au prieur du couvent dominicain de la ville. C'est le fameux Jean Gobi. Donc Jean Gobi le Jeune, est un dominicain. D'ailleurs, à ce propos, c'est tout à fait caractéristique de l'époque. Hein. Dominicain et franciscain dominent le monde chrétien maintenant, hein, surtout en ce début du XIVe siècle. Hein. Ce sont des prédicateurs. Ils sont partout. Ils sont dans les campagnes, ils sont dans les villes. Et dès qu'il se passe quelque chose, on va appeler le grand dominicain, ce grand dominicain qui est aussi le grand inquisiteur. On se méfie beaucoup. Donc on appelle Jean Gobi. La veuve appelle Jean Gobi. Le dominicain de la ville, donc le prieur du couvent dominicain de la ville. Et celui-ci réussit à engager un dialogue avec cette voix, donc la voix de Guy de Corvaux, carrément, durant plusieurs nuits au cours desquelles Jean de Gobi, le dominicain, lui pose nombre de questions sur le purgatoire. C'est-à-dire qu'il en profite, quoi. Hein. Donc, tant qu'à faire, effectivement, parce que c'est peu commun, quand même, de discuter avec une voix d'outre-tombe. Donc, il en profite pour lui poser des questions sur le purgatoire, sur les prières des vivants pour les morts. Quelles sont les prières qu'il faut dire pour, par les vivants pour les morts, leur efficacité, etc. Et c'est donc la transcription de ce dialogue qui a eu un immense succès à la fin du Moyen-Âge, donc fin du 15e. Le paradis, alors on peut donner quelques exemples. Qu'est-ce que l'on apprend? Qu'est-ce que Jean Gobi apprend de l'esprit de Guy de Corvaux? Il apprend ceci. Le paradis est à la portée de tous. Avec un passage en purgatoire, je vous rappelle entre parenthèses que le christianisme invente le purgatoire au XIIe siècle. Avant le XIIe siècle, il n'y a pas de purgatoire. En fait, c'est une réinvention, puisque sous l'Antiquité, dans la religion, la vieille religion des Iraniens, que vous appelez mazdéisme ou zoroastrisme, il y avait déjà donc un enfer, un purgatoire et un paradis. Mais enfin bon, donc voilà. Alors donc, on apprend ceci. Le paradis est à la portée de tous, avec un passage en purgatoire, dont la durée du passage au purgatoire, et fonction des péchés, mais aussi des actes de piété accomplis durant la vie. Ce passage peut être allégé dans sa dureté et même raccourci dans sa durée par les suffrages des vivants, donc les prières des vivants. Voilà ce que l'on apprend dans ce dialogue. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie à cette référence biographique qui est remarquable. Hein. Alors, c'est peut-être pointu, bon, mais enfin c'est tout à fait remarquable. Et là, c'est intéressant de voir comment les choses ont évolué depuis Augustin. Augustin avait trouvé donc une sorte de consensus, donc là on est en plein Moyen-Âge, et là voilà, donc il y a des histoires à l'appel maintenant, de revenants, hein, donc, et ça se passe dans des conditions d'éveil, bien sûr. Alors je vous donne un autre exemple. L'autre exemple, c'est alors celui que vous avez justement sur la feuille. Comme ça, là, vous n'avez rien à noter. Donc, c'est Étienne de Bourbon qui a la vision, ou qui rapporte la vision d'une femme adultère. Donc, la source, c'est d'ailleurs le texte médiéval, hein. C'est Étienne de Bourbon, Tractatus de diversis materiis, etc. Donc c'est un manuscrit, un vieux manuscrit. Et la bibliographie, je vous l'ai mise, parce que là c'est beaucoup plus accessible. D'ailleurs ce sont des très très bonnes références. C'est Schmitt et puis Le Couteux. Schmitt et Le Couteux. Schmitt qui a publié Les Revenants dans la société féodale, ce qui montre bien effectivement que ces histoires se sont multipliées d'une façon incroyable. Il y a même carrément un livre de spécialistes là-dessus. Donc Les Revenants dans la société féodale. Et Le Couteux qui lui va publier Fantômes et Revenants au Moyen-Âge. Fantômes et Revenants au Moyen-Âge. Là, comme ça au moins, on est sûr que on est très très loin de l'époque paléochrétienne. Le monde paléochrétien est bien, bien derrière maintenant. Alors le texte, vous l'avez, parce qu'il m'a paru quand même extraordinaire ce texte, donc vous l'avez, mais enfin on va le lire ensemble, qui nous rapporte ceci. Une femme qui faisait grande pénitence alors qu'elle était mariée me dit qu'elle avait été convertie par ce moyen. Un homme l'avait aimée dans une liaison adultère et était mort subitement dans son péché. Elle se lamentait beaucoup et désirait savoir ce qu'il était advenu de lui quand, alors qu'une fois elle était couchée seule dans son lit, l'adultère dont elle se préoccupait du sort lui apparut, il brûlait comme un fer rouge et dit « Vois comme je suis à l'extérieur, tu peux donc bien imaginer comme je suis à l'intérieur du fait de mes péchés. » Et il lança dans ses yeux un flot d'urine brûlante comme du métal en fusion, dont la chaleur parut brûler la terre, s'y infiltrer et la pénétrer. Après cela, l'homme disparut, terrifié, elle fut convertie et supportait une telle pénitence que cela en était admirable. Donc là, on est vraiment dans une situation incroyable. C'est-à-dire qu'on est converti grâce au fantôme. C'est ça que dit le texte. Hein. On est converti au christianisme, si vous voulez. Donc oui, si on veut. Donc on revient dans le droit chemin grâce à l'apparition des fantômes effrayants, qui font des choses effrayantes. Bon, alors, donc c'est un exemple effectivement qui reste tout à fait fameux. Alors là, donc, si vous voulez plus d'exemples, je vous renvoie à ces références. Donc, par exemple, le texte de Le Couteux, très bien, là, Fantôme et revenant au Moyen-Âge. Là, vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations à ce propos. Alors bon, oui, je vous ai mis d'autres références par la suite, Duval Yvette auprès des saints corps et âme, donc etc. Bon, ça se rapporte plutôt à l'époque paléochrétienne, 3e, 7e siècle, et Rébillard Éric, Religion et sépulture, l'Église, les vivants et les morts dans l'Antiquité tardive. Bon, c'était des textes qui sont un petit peu pointus peut-être parfois. Alors, en épilogue, finalement je reviens du début de cette conférence qui consistait à rappeler que c'est partout et depuis toujours, qu'il y a effectivement ces histoires de revenants. Alors, effectivement, on peut retrouver ces revenants, ces fantômes, par exemple, dans le bouddhisme. Là aussi, ça peut paraître tout à fait étrange, inattendu, un peu comme dans le christianisme. Dans le christianisme, pour les raisons qu'on a expliquées, il ne devrait pas y avoir d'apparition fantomatique. Bon, et il y en a même à l'appel. Bon, donc, et dans le bouddhisme, c'est pareil. D'abord, le bouddhisme, a priori, n'est pas une religion. Ensuite, donc, on est sauvé de quoi ? Du cycle du samsara, c'est-à-dire cette vie continuelle, hein, donc cette vie, mort et renaissance. On renaît tout le temps, on se réincarne systématiquement. C'est l'image d'une roue à ce propos, c'est la roue de l'existence. Et la roue de l'existence bouddhique, vous l'avez ici. Si vous avez un doute, vous juste repérez Bouddha. Voilà Bouddha, il est là, Bouddha. Bouddha qui, lui, est sorti de la roue de l'existence. Il n'est plus soumis au samsara, donc au cycle des vies et des renaissances. Alors c'est une roue de l'existence qui est compartimentée. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si on le voit bien sur mon document, parce que c'est un document, un dessin un petit peu fouillé, mais enfin voilà, donc on voit au moins la roue, on voit aussi Yama, c'est-à-dire le monstre finalement Yama, qui semble dévorer la roue en question, et qui l'a fait tourner aussi. Il y a même un moyeu, le moyeu de la roue, qui est hautement symbolique, mais qu'on va laisser de côté, et la roue elle-même est bel et bien compartimentée. Vous avez tout un tas de compartiments. Alors je vais juste à l'essentiel. En haut, c'est-à-dire dans les compartiments en haut de la roue, qu'on appelle Bhavacakra, la roue de l'existence, en haut se trouvent les dieux. Alors ce sont les dieux qui vivent dans une félicité, donc ils sont effectivement bien heureux, mais une félicité ignorante. Ils ne savent pas ce que c'est Bouddha. Ils ne sont pas arrivés au niveau auquel est arrivé Bouddha, c'est-à-dire s'extraire de cette roue et de cette fatalité, si vous voulez. Hein. Donc, ces dieux qui vivent en haut, dans ces compartiments du haut, dans une félicité ignorante, sont en lutte avec les titans, autre catégorie de dieux. Ils sont en proie par conséquent à la jalousie constante, à la compétition, et donc effectivement c'est le monde des dieux. Les hommes, eux, sont représentés dans des compartiments latéraux. Hein, ils sont très proches des dieux, et les hommes de leur côté sont régis par le désir qui laisse toujours insatisfaits ces hommes-là. Et ils sont en vieux des dieux, bien sûr, etc. Et donc la roue tourne. Alors en bas, inutile de le dire, que les compartiments du bas renvoient aux enfers, et dans ces enfers, c'est la colère et la haine qui l'emportent. Donc à droite, au compartiment de droite, ici sont les animaux, et c'est enfin le compartiment de gauche, celui que je montre ici avec mon pointeur et que j'agrandis aussitôt, de façon à mieux le voir, c'est ce compartiment-là, précisément, qui dans la Bhavacakra, la roue de l'existence, représente les fantômes. Là, vous avez effectivement les fantômes. Les fantômes affamés, les fantômes qui représentent quant à eux l'avidité et l'orgueil. Si dans les enfers c'est la colère et la haine qui l'emportent, si les animaux qui sont à droite sont mus par l'ignorance, si les hommes sont continuellement insatisfaits, régis par un désir qui les laisse toujours insatisfaits, etc., etc. Par contre, les fantômes sont des fantômes affamés, avides et orgueilleux. Donc il y a un compartiment dans la Bhavacakra du bouddhisme qui est réservé spécialement aux fantômes. Ça, il fallait quand même le signaler. Dans le bouddhisme, il y a des fantômes. Là-dessus, toujours dans l'épilogue, et d'une façon peut-être plus agréable, encore que, on peut aussi l'évoquer dans la culture japonaise. Dans la culture japonaise, il y a beaucoup de fantômes, beaucoup de fantômes, et des fantômes superbes qui ont été représentés par de très très grands artistes. Alors, c'est le cas d'Ashinaga Tenaga. Ashinaga Tenaga, littéralement, longue jambe, long bras. Donc ils sont deux, l'un a des longues jambes, l'autre a des longs bras. Ils forment donc une paire, c'est ce qu'on appelle une paire de yoke. Or, yoke en japonais signifie esprit, fantôme, apparition étrange. Hein, c'est le sens même. Donc, Ashinaga Tenaga, père de Yoke, sont effectivement des esprits, des fantômes, des apparitions étranges. Ça fait partie du folklore japonais. Alors, l'un, Ashinaga Jin, possède des jambes extrêmement longues, tandis que l'autre, Tenaga Jin, a des bras extrêmement longs, c'est-à-dire plusieurs mètres de long, pour les jambes comme pour les bras, hein, c'est vraiment des êtres merveilleux. La paire est communément décrite comme des gens de deux pays différents, le pays de ceux qui ont de longues jambes, le pays de ceux qui ont de longs bras. Ils symbolisent, lorsqu'ils sont associés, comme vous l'avez ici, sur de superbes objets, ils vont figurer, donc ce sont des netsuke à ce propos, hein, ce sont des netsuke, ces petits objets-là, ils sont très très prisés par les Japonais dans la culture japonaise. Donc, quand ils sont associés comme cela sur des netsuke, ils représentent l'aide mutuelle que l'on se doit l'un à l'autre. Donc ils sont plutôt sympathiques, mais il n'en reste pas moins que ce sont des esprits. Ah si, netsuke, oui, j'avais mis ici, là. Netsuke. Voilà, netsuke. Ah, ces petits objets sont des netsuke. Ashinaga, c'est celui qui possède des jambes extrêmement longues, et Tenaga, c'est celui qui possède des bras très très longs. Donc l'un est monté sur l'autre, ils s'associent, ils forment une paire, et ils représentent l'aide mutuelle que l'on se doit l'un à l'autre. Et alors, bien sûr, on va passer de cet exemple qui est, disons, doux, à des exemples qui sont un petit peu plus durs, et que l'on doit au fameux artiste japonais que vous connaissez tous, artiste du 19e siècle, qui s'appelle Okuse. Okuse qui a laissé quantité de recueils de gravures, des gravures qui sont de super des estampes colorées, voilà, et il va nous raconter dans un de ses recueils des récits de fantômes. Donc il y a comme ça un recueil qu'il a publié qui s'appelle « Son conte de fantômes ».« Son conte de fantômes », c'est bien Okuse qui fait cela. Donc là vous avez une image qui est un fantôme qui s'appelle « Iyaku Monogatari ». Le recueil de Okuse a été publié en 1831-1832, au moment où il publiait « Les 100 vues du mont Fuji ». Il publiait effectivement ses 100 contes de fantômes. Là ici c'est à gauche le fantôme Iyaku Monogatari, que je me souviens bien effectivement c'est le nom du fantôme, ou alors c'est effectivement l'autre nom, Oiwa. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est bien effectivement un fantôme que l'on a sous les yeux. En voici un autre, toujours de Okuse, toujours tiré d'ailleurs des 100 contes du recueil qu'il a publié, le fantôme de Koada Koiji, précisément. Plus effrayant celui-ci, puisque le fantôme qui apparaît littéralement, c'est une apparition, il est dévoilé, si l'on veut, est aussi un cadavre en putréfaction, ou ressemble à un cadavre en putréfaction. Donc on voit des vers qui s'échappent du cou, par exemple, on voit encore des cheveux, enfin, voilà, c'est un cadavre en putréfaction. Ou c'est autre chose, hein, après tout, hein, donc vous le voyez peut-être mieux sur la projection. Et il y en a effectivement d'effrayants, qui est d'ailleurs Okuse, qui est un très très grand artiste, joue sur des effets, justement. Alors là, par exemple, toujours tiré des 100 contes de fantômes par Okuse, un démon riant. Alors oui, il a l'air effectivement tout à fait sympathique, lui aussi est dévoilé, donc il rit, mais remarquez ce qu'il pointe de son index, c'est la tête arrachée d'un enfant. Donc il a dans sa main droite, ici, une petite boule, je peux m'approcher si vous le voyez pas très bien, et cette petite boule, c'est la tête arrachée d'un enfant, qui crie encore, d'ailleurs, mais la tête a été arrachée par le démon. Donc là, c'est une apparition, effrayante. Enfin, il y a des histoires, de fantômes au Japon, qui sont effectivement des histoires effrayantes, à commencer par The Ring. The Ring, c'est japonais, The Ring. Donc la trilogie The Ring, la version japonaise est effectivement très très célèbre et bien supérieure à la version américaine. Enfin, c'est même pas comparable du tout. Donc ici encore un document très très beau, document, le fantôme par Yoshitoshi. Yoshitoshi est un quasi contemporain de Hokusai. Il a vécu un petit peu plus tard au XIXe siècle, travaillait un petit peu après Hokusai, et là il laisse effectivement une image tout à fait superbe, mais c'est bel et bien un fantôme, apparition fantomatique, un peu transparente d'ailleurs, mais voilà, qui s'accorde avec un décor fleuri, un peu mystérieuse. Il faut se méfier de ces fantômes qui, au Japon, peuvent procéder à des choses, enfin pratiquer des choses qui sont absolument horribles. Voilà, et donc justement, on insistera sur le fait qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, donc les récits de fantômes sont au goût du jour, et que dans le cinéma, les films d'horreur en particulier sont en vogue, et qu'on a tout un tas effectivement d'histoires de fantômes, de récits ou de films d'horreur à ce propos. Voilà, donc j'ai terminé pour ce sujet. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas concernant cette histoire de fantômes. Tous les pays sont impliqués, tous les pays, toutes les civilisations, toutes les cultures en fait ont cru aux fantômes, aux apparitions fantomatiques. Oui. Oui, donc là il y a une petite évolution par rapport aux Grecs. Donc effectivement les Grecs sont très attachés à l'époque d'Hésiode, c'est-à-dire au 8e siècle avant notre ère, sont très attachés à cette image de l'Hadès qui va considérablement évoluer. Et c'est notamment grâce aux religions à mystère dans le cadre desquelles on apprend aux gens une géographie de l'au-delà, une géographie notamment des enfers, que l'on peut espérer échapper à cet Hadès, donc l'Hadès tel qu'il est décrit par exemple par Hésiode, ou même par Homère dans l'Iliade, on y trouve Achille. Or Achille est un très grand héros, et Achille est désespéré d'être dans ce lieu, qui est un lieu terne, froid, où on ne fait rien, donc qui est un lieu totalement désolant. Bon, mais cette image, qui est une image de la Grèce très très ancienne, 8e siècle, avant notre ère, évolue, et on apprend grâce aux religions à mystères qui sont innombrables, à commencer par les mystères d'Eleusis, et d'autres mystères qui seront encore pratiqués par la suite par les Romains, on apprend donc aux vivants à savoir s'orienter dans la géographie de l'au-delà, donc éviter la route qui conduit au bourbier, pour justement donc se diriger vers les Champs-Élysées. Donc il y a effectivement des lieux qui, dans l'au-delà, voilà, sont accessibles finalement aux défunts et qui sont des lieux de réjouissance. Et au bout du compte, qu'est-ce que l'on espère dans cet au-delà? Qu'est-ce que l'on espère pour le défunt? Qu'il banquette comme les dieux, et on a comme ça des représentations du banquet du défunt. Et donc il va jouir des plaisirs de la musique, du banquet dans un au-delà avec ses ancêtres. Il a rejoint effectivement les dieux eux-mêmes. Voilà, mais c'est une évolution en fait, c'est une évolution. L'Hadès, tel que c'est décrit par Homère, oui, c'est un lieu épouvantable, d'une froideur donc tout à fait incroyable, où il n'y a que des ombres justement. D'autres questions? D'autres, oui. Oui. Vous avez aussi des fantômes. Oui, tout à fait. Donc les fantômes du bouddhisme sont les mêmes que l'on va trouver dans l'hindouisme. Tout à fait. Donc vous avez des fantômes là aussi. Non, c'est vraiment commun, je crois, à toutes les cultures, toutes les civilisations. C'est cette histoire de revenants. D'autres questions? D'autres remarques? Oui. Ah ben oui, on en revient toujours à la même chose. Oui, tout à fait. Voilà, exactement, tout à fait. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, il faut absolument donc des explications. Il faut des explications devant donc un non-sens ou un mystère à vous de voir, donc chacun voit les choses comme il veut, bon, ou bien un non-sens, qui est un non-sens total de cette vie ici-bas, donc on veut lui donner du sens justement, et on lui donne du sens par une image de l'au-delà, donc un salut, etc. Et donc effectivement, si dès lors que l'on pose un au-delà, donc on pose un lieu pour les défunts, mais voilà, donc forcément on s'imagine qu'il y a des portes justement qui donnent accès, enfin qui permettent un passage. On a commencé cette conférence comme cela grâce à l'Égypte antique, donc la porte, disons la porte de la tombe, qui permet le passage du monde des vivants au monde des morts. Bon, mais voilà, c'est sûr, vous avez tout à fait raison de dire il faut des explications, il faut se rassurer, il faut se rassurer devant la mort, il faut se rassurer devant le sens de tout ça, de cette vie. Voilà, donc la prochaine fois, c'est la Sibylle de Tibourg qui va nous intéresser, et la Sibylle de Tibourg, ça sera le vendredi 6 avril que l'on parlera de cette fameuse Sibylle. On restera dans le domaine de la prophétie, de la prédiction, etc. Et la prophétie, la Sibylle de Tibourg, est bien sûr extrêmement importante pour les Romains comme pour les chrétiens. On en parlera la prochaine fois, 6 avril, ça sera le vendredi 6 avril.